Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Les élections générales n'auront lieu qu'en avril ou en mai. La date précise n'en a pas encore été fixée, mais la campagne électorale bat déjà son plein. Un processus de plusieurs mois, donc, ainsi s'étire la vie politique en Inde, la démocratie représentative la plus peuplée du monde, dont la complexité est à la mesure des enjeux, immense, tant sur le plan des institutions et de leur évolution que sur le plan économique et sociétal. Et puis, il y a 10 jours, une attaque suicide contre des policiers indiens au Cachemire, cette région à majorité musulmane à la frontière du Pakistan et de la Chine, ajoutait encore aux tensions. Chauffée à blanc depuis 5 ans par le discours nationaliste hindou du premier ministre sortant, Narendra Modi, l'opinion publique crie « vengeance ». Champion d'un national-populisme à l'indienne, politiquement affaibli dans quelques états clés de cette vaste fédération, comment le Premier ministre va-t-il riposter à cette attaque islamiste revendiquée par un mouvement solidement installé au Pakistan, le Pakistan, ce frère ennemi détesté, massivement soutenu par l'Arabie Saoudite et par la Chine? Quelle promesse peut-il faire à une population frappée par un chômage de masse malgré le rythme soutenu de la croissance? Jusqu'où ses rivaux politiques, à commencer par la famille Gandhi, ont-ils maintenant le vent en poupe? Les grilles de lecture européennes, basées sur les religions et sur les castes, sont-elles toujours pertinentes? Enfin, angoissée par cette Chine conquérante qui avance sur la route de la soie, comment l'Inde, premier acheteur d'armes au monde, conçoit-elle son rôle régional et international? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Christophe Jaffrelot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche aux séries de Sciences Po CNRS. Tara Varma, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes la directrice adjointe du bureau de Paris du Conseil européen des relations internationales. François Godemont nous rejoindra dans un court moment, spécialiste de la Chine et de l'Asie, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne, et par téléphone, Jean-Joseph Boileau, membre du cercle Cyclope et chercheur associé à l'IRIS. Christophe Jaffrelot, d'abord donnez-nous, s'il vous plaît, un ordre de grandeur. La Chine de chez nous paraît immense, et elle l'est. Donc c'est d'abord une fédération, combien d'États ?
29. En fait, le bon point de comparaison pour mesurer l'étendue de ce pays continent, c'est l'Union européenne. 29 États comme l'Union européenne. Et une superficie comparable, 3,2 millions km², c'est l'Union européenne à 29, ou peu s'en faut. Mais évidemment, avec une population qui, elle, est de 1,3 milliard.
Donc plus du double.
Plus du double, avec un corps électoral qui, s'il est très jeune, et donc n'a pas toujours l'âge de voter, même si l'âge a été abaissé à 18 ans, ça fait un corps électoral qui est de 800 millions de personnes environ. Si on a le taux de participation cette année que nous avons eu il y a 5 ans, c'est-à-dire 66%, eh bien c'est environ 500 millions de personnes qui vont voter ce printemps.
Et donc, ça explique la longueur du processus.
Oui, c'est une des raisons, la principale. L'autre étant que pour assurer la sécurité autour des bureaux de vote, on déplace les troupes en même temps que l'on déplace les machines à voter. Et que donc, ça se fait en général en 6 phases, balayant le pays d'ouest en est. Et on a ensuite le résultat beaucoup plus vite, par contre, parce que le dépouillement ne prend plus le temps qu'il prenait. Ce ne sont plus des bulletins de vote papier, mais c'est des machines électroniques qui, du coup, crachent les résultats beaucoup plus vite.
Alors, on a vu que le Premier ministre sortant, donc M. Modi, a lancé la campagne électorale le 12 janvier dernier. Il avait conquis une majorité absolue il y a 5 ans. Mais c'est plus qu'un incident, cette attaque suicide, donc il y a une dizaine de jours, qui a tué une quarantaine de paramilitaires indiens au Cachemire. Donc voilà qui ranime à la fois le cauchemar du Cachemire, ça dure depuis 30 ans, et en même temps, dans une campagne où le Premier ministre, évidemment, exalte le nationalisme indien, ça le met, lui, dans une position difficile. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Il est fort possible qu'il y ait un avant et un après incident, comme vous dites, de Cachemire dans cette campagne électorale. L'avenir le dira. Mais effectivement, il se peut aussi que rien ne se passe de particulier parce que faire quelque chose, hein, comme vous le demandez, n'est pas si facile. Pour l'instant, l'Inde explore des voies plutôt diplomatiques, avec succès d'ailleurs, hein, puisque son objectif était d'isoler le Pakistan et que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de voter une résolution qui, pour la première fois, avec l'assentiment de la Chine, désigne Jaish et Mohammed, ce mouvement basé au Pakistan, comme responsable de la tuerie. Donc un effort d'isolement diplomatique du Pakistan que l'Inde tenait à accomplir et qui progresse. Et d'autre part, au même moment, l'Inde annonce qu'elle va réduire, voire couper le flot des eaux, des affluents de l'Indus qui alimentent le Pakistan et qui passent par son territoire à elle, ce qui est une façon de durcir le ton considérable, mais qui est une façon d'éviter une opération militaire. Donc pour l'instant, mais évidemment, encore une fois, seul l'avenir dira si on s'en tient là. Mais pour l'instant, le Pakistan est la cible, non pas d'une frappe ou d'un projet de frappe, mais de mesures qui sont beaucoup plus diplomatiques et stratégiques.
Le Premier ministre indien n'a pas désigné nommément le Pakistan, mais il n'a pas répondu non plus à l'offre de dialogue du Premier ministre pakistanais, l'ancien joueur de cricket Imran Khan. Néanmoins, l'opinion publique en Inde s'attend quand même, parce que Modi a dit « Oh, ils ont un drap ou un jaw-breaking ». Donc, comment traduire ça en français, jaw-breaking ? À fracasser la mâchoire, une réaction à fracasser la mâchoire.
Oui, c'est ça, oui, c'est un uppercut si on voulait, mais un uppercut très réussi. Tout le monde désigne le Pakistan comme le responsable de cette attaque. Et le déni dans lequel se complaît toujours Islamabad dans ces cas-là ne trompe personne. Le mouvement Jaish et Mohammed a lui-même revendiqué cette attaque. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté.
Un mouvement dont le chef vit très tranquillement dans une ville
à Bawalpur, effectivement, au sud du Punjab pakistanais. C'est un mouvement qui remonte à l'an 2000. Ça fait maintenant 19 ans que ce mouvement existe et est responsable de certaines des frappes les plus meurtrières qui ont atteint le Cachemire. Il y en a eu une à Uri en 2016. Qui d'ailleurs avait justifié une frappe chirurgicale quelques jours plus tard.
Et qui a donné lieu à un film de Bollywood qui a eu un succès énorme, parce qu'évidemment exaltant la bravoure des militaires indiens et leur succès en l'occurrence.
Oui, et dans un climat effectivement d'hypernationalisme sur lequel pouvait surfer Narendra Modi. Mais c'est l'une des difficultés qu'il rencontre. Comment faire quelque chose de plus fort que ce qui s'est fait en 2016? Or, ça doit être plus fort parce que le crime est plus grand et il est en campagne électorale. Donc, un ratage aurait des conséquences énormes. Ne pas être à la hauteur de l'enjeu aurait des conséquences énormes. Or, on n'exclut pas, et maintenant les Pakistanais sont prêts à une attaque des représailles de type militaire du côté pakistanais, maintenant en Inde. Et ça va sans doute peut-être encore plus limiter le côté belliqueux de la riposte. D'autre part, il faut qu'il fasse quelque chose, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, il apparaît en retrait par rapport à l'opposition et par rapport au Congrès notamment, qui dénonce par exemple le fait qu'il est en train de faire un documentaire dans un parc naturel au moment où les frappes ont eu lieu et qu'il a attendu 3 heures avant de s'occuper du dossier. Bref, il est aussi poussé par l'opposition à être à la hauteur de son nationalisme, tout en ayant une marge très limitée quant à concrètement la forme de la réplique.
D'autant qu'il faut toujours le rappeler, le Pakistan comme l'Inde sont deux puissances nucléaires, ce qui n'arrange rien ou qui peut-être arrive à geler en quelque sorte l'escalade du conflit. Tara Varma, vous êtes d'origine indienne, mais vous dirigez avec Manuel Afon Rapnaud le bureau à Paris du Conseil européen des relations internationales. Selon vous, l'opinion publique en Inde exige, demande, en pleine campagne électorale, encore une fois, des représailles musclées où il y a davantage un jeu de rôle et une escalade verbale, en quelque sorte.
Bonjour, merci beaucoup. Alors, d'abord, l'opinion publique en Inde. Donc, on l'a rappelé, c'est un pays d'1,3 milliard d'habitants. L'opinion publique d'un État à un autre, elle varie. J'insisterai sur deux points. Le niveau d'émotion suite à cette attaque, il est comparable au niveau d'émotion que l'attaque de 2008 avait provoquée.
2008, donc Bombay.
Exactement. Celle de l'attaque contre l'hôtel Taj à Bombay, qui était diffusée en direct. Donc il y avait un échec militaire, un échec politique, un échec médiatique de la part du gouvernement indien. Ça fait plusieurs jours que l'attaque a eu lieu et l'intensité médiatique ne faiblit pas, au contraire. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, il doit effectuer un numéro d'équilibriste, le Premier ministre Modi. C'est-à-dire qu'il doit effectivement avoir une réponse assez forte pour répondre à la colère et aux attentes du peuple indien. Et en même temps, il ne doit pas provoquer du côté du Pakistan une réponse trop forte. Donc, justement, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. On ne sait pas s'il va y avoir une frappe chirurgicale dont les médias parlent quand même beaucoup. Les camps d'entraînement du Jaïch-e-Mohammed, ils sont à l'intérieur des terres au Pakistan. Donc, une frappe chirurgicale contre ces camps d'entraînement serait en fait assez compliquée à mettre en œuvre. Et je pense qu'il est difficile pour lui, à 2 mois des échéances électorales, de se mettre dans une position où il initie effectivement, même si c'est en représailles, où lui initie une attaque militaire contre le Pakistan. Mais à vrai dire, comme il ne s'est pas vraiment prononcé sur la question, on est un peu dans le flou.
Mais cela veut dire néanmoins que cela donne un enjeu national à cette campagne électorale qui a tendance à se morceler d'un État à un autre, alors que là, bien évidemment, c'est un facteur où la discussion est globale.
Absolument. Et d'ailleurs, le BJP, le parti nationaliste à la tête duquel il est, et qui a la majorité aujourd'hui, dit très clairement, si Modi est réélu, on a une Inde forte face à un Pakistan qui est aussi assez fort et assez offensif. Et c'est de cette manière que c'est présenté. Donc, la question, c'est est-ce que ça joue en sa faveur ou pas. D'aucuns pourraient dire ça joue en sa faveur parce que ça le place à nouveau dans une position où il est l'homme fort. Aujourd'hui, quand même, donc on l'a dit, il n'est certainement pas crédité des mêmes intentions de voix qu'il y a 5 ans. Il peut gagner, mais s'il gagne, il va devoir mettre en œuvre une coalition. Et du côté du Pakistan, ça permet à nouveau de justifier l'existence de l'armée et le poids qu'a l'armée aujourd'hui, même si effectivement le Premier ministre Modi lui-même n'a pas dit que le Pakistan était responsable, mais la communauté internationale a clairement désigné le Pakistan et toutes les manœuvres diplomatiques et politiques qui ont été mises en œuvre, elles étaient envers le Pakistan.
Christophe Jaffolo, venons-en à la nature très spécifique du régime mis en place par Narendra Modi, qui donc incarne et porte à lui tout seul une version de la démocratie indienne que l'on n'avait jamais vue auparavant.
Tout à fait, tout à fait. On a sans doute une Inde plus différente depuis 5 ans que dans un passé récent. Il faudra remonter aux années 70 et à l'état d'urgence pour trouver une telle rupture, entre guillemets, mais, ou sans guillemets d'ailleurs, avec la démocratie libérale d'avant. C'est-à-dire que on a pour la première fois au pouvoir une force politique nationaliste hindoue qui définit la nation non plus comme une collection de communautés dans un cadre séculariste, mais comme incarnée par la majorité hindoue, 80% des Indiens.
Donc par une religion par et une... presque par une ethnie.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est une conception de la religion qui est enracinée dans une culture, dans un territoire aussi d'ailleurs. Le nationalisme hindou considère que la terre de l'Inde est une terre sacrée. Et puis par l'idée qu'on est les fils du sol, qu'on est en quelque sorte les premiers occupants. Et la littérature du nationalisme hindou met un grand accent sur le fait qu'il n'y a jamais eu d'invasion aryenne, que les Aryens sont les fils de ce sol et qu'ils en sont les descendants. Ils y attachent beaucoup d'importance. Donc il y a une dimension ethnique, effectivement, une dimension lignagière. Hein. C'est un peuple autant qu'une religion que l'on défend. Alors, ceci veut dire quoi ? Ceci veut dire que les minorités chrétiennes, mais surtout musulmanes...
Musulmanes qui représentent quoi ? À peu près 15% ?
Un peu moins, oui. Enfin, ça dépend effectivement de la façon dont on actualise le recensement. Mais en 2011, ils étaient 14,2%. Sans doute qu'ils sont effectivement autour de 15% maintenant.
Simplement, on raisonne en pourcentage, mais ça représente évidemment des nombres considérables.
Énorme, bien sûr,
des millions et des millions de gens.
200 millions de musulmans sans doute aujourd'hui, faisant de l'Inde l'un des plus grands pays musulmans du monde, à peine derrière le Pakistan et bien sûr derrière l'Indonésie. Donc oui, on a affaire à des minorités qui sont considérables, mais qui sont quand même à chaque fois dominées et victimes depuis quelques années donc de formes de police culturelle. On n'a pas eu de transformation du cadre juridique. Ce régime ne s'est pas traduit par le vote de nouvelles lois. Et il n'a évidemment pas pu essayer de changer la Constitution parce que de toute façon, il n'avait pas assez de sièges au Parlement. Donc on a laissé le cadre juridique. Officiellement, l'Inde est toujours séculariste. Officiellement, l'Inde est toujours socialiste d'ailleurs aussi. Tout ça n'a pas bougé. Mais en pratique, sur le terrain, on a eu une police culturelle très vive, des mouvements qu'on appelle vigilantistes, qui se sont notamment attaqués aux musulmans du fait du commerce de la vache, des bovins en général d'ailleurs, qu'ils pouvaient faire.
La vache sacrée, bien évidemment.
La vache sacrée, qui est le symbole de l'hindouisme tel qu'ils le définissent, mais ils ne sont pas les seuls à le faire ainsi. Et cela s'est traduit notamment par le lynchage de dizaines de musulmans au cours des dernières années. Et c'est bien le point clé en termes de respect de la diversité culturelle. Le nationalisme hindou y est allergique, veut qu'on assimile les minorités, qu'on les hindouise. Mais il y a un autre volet lié d'ailleurs à celui-là. Ils veulent aussi que les zones à la périphérie de l'Inde, le Cachemire notamment, le Nord-Est aussi, rentrent dans le giron indien. Et par exemple, dans le cas du Cachemire, les articles 370 et 35 de cette même constitution qui donnent une autonomie au Cachemire sont dans leur collimateur. Ils voudraient réduire cette autonomie. Et au Nord-Est, en Assam et dans tout le pourtour qui est frontalier de la Chine et de la Birmanie, on a les mêmes tentations ou tentatives pour réduire la diversité. Et donc, le régime, il est nationaliste de ces deux manières. Hein. C'est d'une part les minorités, d'autre part les périphéries, en quelque sorte, que l'on cherche à intégrer de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus assimilationniste. C'est le mot qu'on utilise vis-à-vis du Cachemire, par exemple. Et puis, il y a un troisième versant de ce régime qui s'en prend aux institutions. Et tous les populistes s'en prennent aux institutions, puisqu'ils ont de toute façon une légitimité qui leur vient du peuple. Et donc toutes les institutions qui définissent un cadre légal ne peuvent être que, en quelque sorte, battues en brèche.
Et jusqu'à quel point est-ce que Modi a-t-il bouleversé le système institutionnel ?
Il ne l'a pas bouleversé. Le mot serait beaucoup trop fort. Il a réduit certains des contre-pouvoirs que l'on pouvait trouver, par exemple, au sein de la commission électorale, au sein aussi de l'appareil judiciaire. Pour la première fois, d'ailleurs, l'an dernier, quatre membres de cette Cour suprême, qui est l'instance supérieure de l'appareil judiciaire indien, ont donné une conférence de presse pour dénoncer les pressions du pouvoir exécutif sur le judiciaire. C'était du jamais vu. On a aussi une autre institution qui a beaucoup souffert, c'est le Central Bureau of Investigation, qui est en fait le FBI à l'indienne, où on a vu nommer des
donc
amis du pouvoir.
Donc les renseignements généraux, disons.
Et alors tout l'appareil de renseignement, enfin, évidemment. Mais là, c'est la police, des polices en quelque sorte, qui est aussi en cause. Donc là, on est sur de l'érosion, non pas sur un bouleversement des institutions, mais il y a une vraie crainte que un nouveau mandat, redonnant 5 ans au même pouvoir d'une manière suffisamment forte, avec une majorité absolue, eh bien, finissent par faire basculer le pays dans quelque chose qui soit beaucoup moins, je dirais, démocratique. Sachant qu'évidemment, quand on dit démocratie, il faut faire attention. Narendra Modi se réclame du peuple.
Oui, mais comme tous les populismes élus. Exactement. Enfin, élus par un processus...
Exactement, c'est-à-dire que la démocratie, il faut toujours considérer qu'elle a deux faces. Elle est démotique, elle est nourrie par le suffrage universel, et puis elle est libérale. Elle doit répondre à un cadre constitutionnel. Mmh. Et quand le cadre libéral s'érode, eh bien, on hypertrophie le cadre démotique et du coup, c'est du populisme, effectivement, et c'est la légitimité qui l'emporte sur la légalité. Mais alors, du coup, aussi, les élections ne sont plus libres pour très longtemps, car il y a un moment où...
Ni pour tout le monde, parce qu'on a vu aussi le niveau d'agressivité dans la proposition politique et ethnique de Modi s'aggraver au fil de ces 5 dernières années. Jean-Joseph Boileau, merci d'être avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'économie. On a vu ce Narendra Modi, donc issu de l'État du Gujarat, promettre un programme économique il y a 5 ans, qui avait convaincu et qui semblait même réalisable, en tout cas au début. Qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui il y ait ces immenses protestations paysannes dans plusieurs États indiens, et pourquoi aussi de la déception?
Oui, pas mal de déception, même si la croissance indienne de l'ordre de 7-7,5%, donc Modi va pouvoir représenter des chiffres qui sont satisfaisants sur le plan économique. L'indice boursier lui-même résiste fortement. Non, ce qui est intéressant dans ce quinquennat, c'est qu'il exprime bien deux contradictions du modèle Modi. Une contradiction entre, d'un côté, tout son discours libéral, ce qu'on a appelé la Modinomics, et d'un autre côté, le nationalisme politique. Et puis, d'un autre côté, je voudrais insister sur la solidité des institutions indiennes, à la fois économiques et politiques. Alors, sur les contradictions de la Modinomics, c'est très intéressant de voir qu'il est arrivé au pouvoir, il avait une assez faible majorité en termes de voix, il a eu une très grande majorité en termes de sièges, parce que c'est un système électoral de type britannique à un tour majoritaire, et que pendant 2 ans, il va faire de la Modinomics libérale, et que ça marche pendant près de 2 ans. Et puis, en novembre 2016, donc il est élu en mai-juin 2014. Donc, en novembre 2016, il essaye un coup politique. Et donc là, on passe dans le versant de la Modi Politics, qui est une victoire à la Pyrrhus en Uttar Pradesh pour, je crois, largement défaire les partis d'opposition. Il va se lancer dans la démonétisation surprise. Un soir, on annonce aux Indiens que 80% de la masse monétaire n'a plus cours légal et qu'ils doivent changer tous leurs billets.
Donc on a vu, ces queues immenses de gens avec des sacs de billets qu'ils essayaient de convertir.
Ça va bloquer complètement l'économie indienne pendant 2-3 mois en réalité. Or, l'économie indienne, c'est une économie informelle. Dès lors que vous retirez cette masse de cash en circulation, eh bien, vous stoppez les transactions économiques. Et on estime à peu près une perte de 2 points de croissance. Ce choc de la démonétisation, il va gagner le Uttar Pradesh, bien évidemment, mais se met en place un véritable cercle vicieux économique, parce qu'en juillet 2017, donc quelques mois après, on introduit de façon très très chaotique la TVA pan-indienne qui s'appelle la GST et rebelote un deuxième choc. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué et notamment tout le petit commerce, la petite industrie n'arrive pas à passer à cette TVA qui assez complexe, qui suppose d'être informatisé, etc. Et donc, l'économie n'arrive pas à rebondir, alors même que la croissance mondiale caracole avec l'arrivée de Trump aux États-Unis. De sorte qu'on se retrouve tout d'un coup avec un choc de conjoncture, et à ça va s'ajouter le choc fiscal. Le déficit fiscal est plus important que jamais, de sorte que les grands projets d'infrastructure promis par Modi s'arrêtent. Et puis un quatrième choc qui arrive et qu'on voit très bien en ce moment, c'est Modi ne s'est jamais attaqué au mauvais portefeuille bancaire, au mauvais prêt, si vous voulez, qui représente plus de 10% des prêts et qui notamment sont dus par ses amis à lui, le grand patronat indien, et qui fait que tout d'un coup, le cycle du crédit, et on le voit très bien là ces dernières semaines, est en train de complètement redescendre, de sorte que la confiance disparaît. Confiance économique, et puis la confiance politique, on l'a vu. Pourquoi ? Parce que les catégories sociales qui avaient porté Modi, qui en avaient un peu marre, si vous voulez, des 10 ans du Parti du Congrès, Manmohan Singh, d'un homme assez peu dynamique, eh bien vont, ces catégories, les jeunes, les classes moyennes urbaines qui avaient largement voté Modi en espérant que la croissance indienne à deux chiffres allait repartir, eh bien, elles sont déçues et que dès lors que Modi avait gagné avec un assez faible déplacement de voix, eh bien, ça va lui poser un vrai problème politique pour ses élections, puisqu'on n'est plus du tout sûr que Modi, désormais, et sa coalition vont l'emporter.
Le gouvernement a essayé, si j'ai bien compris, de supprimer, ou en tout cas de mettre le couvercle sur les statistiques du chômage. Il faut quand même imaginer qu'il y a 1 million de gens en plus chaque mois sur le marché du travail en Inde. Donc, même si le taux de croissance nous paraît mirifique, ça représente évidemment un taux de chômage exponentiel.
Voilà, le sous-emploi des jeunes est considérable, on l'a vu, mais il y a aussi un deuxième secteur où Modi n'a pas du tout réglé les problèmes, c'est l'agriculture, la paysannerie, qui est à la fois malade de la révolution verte, du changement climatique et d'une politique économique là libérale, qui va notamment supprimer tout un ensemble de subventions. Et donc là, c'est le deuxième sujet qui apparaît et qui est une contradiction de Modi et qui est très très forte, et que l'ancien gouverneur de la Banque centrale indienne a bien soulevé il y a quelques semaines, gouverneur Raghuram Rajan, qui était quand même qui était un des meilleurs économistes du monde et qui s'est heurté de plein fouet à plusieurs reprises avec Modi, qui est un homme autoritaire. C'est pour régler les problèmes de l'Inde, vous avez deux voies. La première, c'est de passer à plus de 10% de croissance, c'est la voie chinoise en gros, et Modi s'est avéré incapable de véritablement porter à 10% le taux de croissance, et en partie à cause justement de son nationalisme politique. Mmh. Et la deuxième voie possible, c'est de revenir en gros à un modèle gandhien, beaucoup plus à ce moment-là décentralisé, qui redonne la main aux régions, mais aussi aux villes moyennes, qu'on voit notamment dans un État comme l'Andhra Pradesh, qui se lance dans un vaste plan de transition agroécologique. Et là, on est en contradiction avec, là encore, le modèle de Modi, qui est un modèle, au contraire, d'hypercentralisation. Ceux qui ont gouverné l'Inde, c'est à New Delhi, le PMO, le Prime Minister Office, et c'est lui qui a pris toutes ces décisions qui conduisent à ce que l'économie indienne ne soit pas du tout dans une situation optimale. Donc, pas de création d'emplois, parce qu'il n'y a pas de confiance, pas d'infrastructure suffisamment rénovée, et donc le bilan de Modi n'apparaît effectivement pas du tout à la hauteur de ce que l'Inde attendait.
Tara Varma, dans cette campagne électorale, Narendra Modi reste fidèle à son style. C'est d'ailleurs extraordinaire de voir que cet homme politique, qui commence donc de façon modeste dans son état natal, se préoccupe très tôt d'embaucher une boîte de relations publiques américaine pour construire son image, avec des moyens tout à fait saisissants lors de la dernière campagne électorale, puisqu'on le voyait en hologramme dans plusieurs États à la fois. Cette fois-ci, il joue sur une offre politique certes plus fragile, on vient de le comprendre. Néanmoins, il veut toujours apparaître comme le serveur de thé, ce qui était apparemment son emploi d'origine dans la boutique de son père, face au parti du Congrès, c'est-à-dire à la dynastie des Gandhi, c'est-à-dire quatre générations de Pinerous qui ont dirigé l'Inde d'une manière ou d'une autre, qui est une histoire extraordinaire.
Alors, il y a une évolution certaine. En 2014, il se présente effectivement comme le serveur de thé, tout en ayant déjà recours aux réseaux sociaux, à Twitter, de manière massive. Alors, ça nous semble aujourd'hui, dans les campagnes des élections européennes, américaines, tout à fait normal. Mais en fait, en Inde, en 2014, il a réussi à en faire un usage qui était assez extraordinaire. Et d'ailleurs, ça lui a bien réussi.
Mais à destination, bien évidemment, des populations urbanisées. Enfin, là où il y a...
Oui, mais en fait, il a réussi à diffuser cette image un peu partout en Inde, à la fois de cet homme modeste qui avait réussi et en même temps d'une personne qui était capable de parler à des publics très différents. Aujourd'hui, le parti du Congrès, et notamment Rahul Gandhi, son président, essaye de le présenter comme l'ami des riches. Donc effectivement, on voit une évolution notable en l'espace de 5 ans. C'est un sujet qui est présent dans la presse indienne quasiment quotidiennement aujourd'hui. Et c'est pas qu'être un ami des riches, ce serait un défaut forcément, mais ce que le parti du Congrès sous-entend, c'est qu'il y aurait une forme de capitalisme de connivence aussi, et que donc Modi, arrivé à une situation de pouvoir suprême, profite de cette position pour donner des contrats à ses amis, pour en fait mettre en place un système de corruption. Alors, un système qui existait probablement déjà, mais dont il profite lui aussi. Et alors, c'est aussi tout le débat autour du contrat du Rafale qui est également présent.
Avant d'en venir au contrat des Rafales, qui évidemment concerne au premier chef aussi la France, restons à cette idée des classes sociales en Inde, et donc des castes. Alors en principe, il est interdit, il est illégal, je crois, interdit de faire mention des castes. Néanmoins, elles sont extraordinairement prégnantes, et notamment dans ce duel entre la famille Gandhi, qui est évidemment tout en haut de l'échelle sociale, et Modi et ses acolytes ou ses alliés.
La Constitution de 1950, elle interdit l'intouchabilité. Donc on n'est plus censé avoir recours à ce terme-là. Et elle interdit le système des castes aussi.
Oui, mais avec un système de discrimination positive pour les basses castes,
qui a été mis en place, en fait, quand on s'est rendu compte que l'interdire sur le papier dans la Constitution, ça ne suffisait pas, malheureusement, à éliminer les discriminations qui préexistaient. Et donc, il y a des discriminations positives dans l'embauche à la fonction publique et aussi dans l'entrée à l'université.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que du coup, les hautes castes, donc les brahmanes, qui ne sont pas nécessairement prospères, protestent parce qu'ils deviennent pauvres.
Absolument. Et alors, Modi a d'ailleurs très bien compris ça et a fait un coup politique très fort en janvier de cette année, janvier 2019, en proposant, encore une fois, à l'embauche, à la fonction publique et à l'admission aux universités, un quota de 10% pour les castes les plus hautes, mais qui sont en fait socialement, économiquement très précaires. Et en faisant cela, il a gagné plusieurs points de popularité. Alors, l'attaque de Pulwama rabat un peu les cartes, mais malgré tout, c'était un peu un coup de génie. Et il a fait ça, c'est sûr que ça ne pouvait venir que de lui, parce qu'il travaille dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois il va parler aux castes les plus hautes qui ont effectivement le sentiment d'être discriminées face aux autres castes plus basses, mais il parle quand même à un public précaire qui se reconnaît toujours dans lui, dans le serveur de thé.
Face au serveur de thé, donc, Eric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire. Et donc, on retrouve la génération des jeunes Gandhi, si j'ose dire. Donc, Rahul Gandhi, qui a succédé à sa mère italienne, Sonia, à la tête du parti du Congrès. Et surtout, et c'est la nouveauté, c'est l'entrée en politique de sa sœur, Priyanka, dont la ressemblance avec sa grand-mère Indira est tout à fait spectaculaire.
Il y a un quart de siècle, un journal anglophone indien avait évoqué la possibilité que Priyanka Gandhi entre en politique après ses études. À l'époque, la jeune femme terminait ses études de psychologie à l'université de New Delhi. Elle était âgée de 21 ans. La prédiction s'est révélée fausse, mais elle résonnait comme une évidence, résume aujourd'hui le National Herald. Car la longue attente a finalement pris fin, le 23 janvier dernier, avec la nomination de Priyanka Gandhi au poste de secrétaire général du Parti National du Congrès, un poste clé où elle sera responsable pour les prochaines élections de la partie orientale de la région de l'Uttar Pradesh, une région clé avec plus de 200 millions d'électeurs. Désormais, explique le journaliste, la question à $1 million est de savoir si cette carte Priyanka va fonctionner. Est-ce que la fille de Rajiv Gandhi, la petite fille d'Indira Gandhi et l'arrière petite fille de Nehru va réussir à rebattre le jeu politique indien? L'auteur de l'article, l'historien Pramod Kumar, en est convaincu. Selon lui, il est arrivé à plusieurs reprises dans le passé que les Indiens votent sans considération de caste, ni de communauté, ni de région, trompant ainsi tous les pronostics. De même, depuis l'assassinat de son père, Rajiv Gandhi, en 1991, Priyanka est considérée comme une future probable Indira Gandhi. Et d'ailleurs, elle bénéficie, c'est vrai, là-dessus d'un atout très visible, c'est sa ressemblance avec sa grand-mère, qui a toujours été un sujet d'admiration, insiste le journaliste. Il suffit de voir les photos des deux femmes, même cheveux noirs bouclés courts, même sourire, même détermination dans le regard et souvent les mêmes couleurs de sari.
Mais n'y a-t-il pas une lassitude en Inde vis-à-vis de cette dynastie ?
Ce qui est vrai, c'est que l'entrée en politique de Priyanka relançait le débat sur cette famille pas comme les autres, depuis notamment qu'en 1959, Nehru avait nommé sa fille Indira, âgée à l'époque de 42 ans, présidente de ce parti du Congrès. Le quotidien indien DNA parle aujourd'hui de la saison 5.2 de Dynastie. Priyanka est en effet la descendante de trois premiers ministres. Elle est aussi la sœur de Rahul Gandhi, qui a succédé à la fin de 2017 à sa mère Sonia à la présidence du Parti du Congrès. Elle est donc, explique le journal, la cinquième représentante de cette famille et la deuxième de sa génération, d'où ce fameux 5.2. Pour le chroniqueur indien Minas Merchant, auteur, lui, d'une biographie de Rajiv Gandhi, eh bien, cette arrivée de Priyanka dans la politique indienne n'a rien d'un scoop. Dès 1991, elle aidait son père à faire campagne, écrit-il dans un article publié sur le site Daily O. La même année, Priyanka entre dans l'histoire, poursuit le journaliste, quand, au petit matin du 22 mai 1991, elle prend l'avion en direction de Chennai avec sa mère Sonia pour ramener à Delhi le corps de son père, assassiné à l'âge de 46 ans. Le jour des funérailles, elle montre un caractère d'acier, réconfortant sa mère aux côtés de son frère Rahul, rentré lui précipitamment des États-Unis. Au cours des 30 années suivantes, elle restera cette personnalité forte mais silencieuse avant de reprendre en janvier donc le flambeau de la famille. Pourquoi tout le monde s'excite-t-il alors qu'en 40 ans de dynastification, de nombreux politiciens ont transformé leur circonscription en domaine et qu'ils s'y comportent comme des maharajas, s'interroge aujourd'hui le Hindustan Times. Priyanka Gandhi arrive en réalité là où on l'attendait, comme d'autres fils ou filles d'eux l'ont fait au BJP. Poursuit le journal, le BJP, c'est évidemment le parti du Premier ministre Modi. Mais pour Priyanka, une autre difficulté l'attend. Son mari, avec lequel elle a eu deux enfants, a des ennuis avec la justice. Le mini tycoon de l'immobilier, comme le surnomme la presse, est en effet soupçonné de blanchiment d'argent, de quoi ternir l'image d'une famille qui ne fait plus rêver les Indiens. Car si les Gandhi sont toujours utiles à l'organisation du parti, ils attirent de moins en moins les bulletins de vote, remarque le journal Indian Express. Perfide, le journal insiste, Priyanka va devoir maintenant répondre à la question que ne manquons pas de lui poser les électeurs. Qu'avez-vous fait jusqu'à présent, vous qui n'avez jamais occupé aucun poste ni aucune fonction ?
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
François Godemont, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. Christophe Jaffrelot et Tara Varma évoquaient l'importance du Pakistan et de la question du Cachemire, ranimée à nouveau de façon sanglante il y a une dizaine de jours par un nouvel attentat suicide. On a vu que le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui vient d'effectuer une tournée en Asie, a distribué quelque 20 milliards de dollars de promesses d'aide économique au Pakistan. Il est ensuite allé à Delhi, en rentrant d'abord à Riyad, parce que les Indiens n'aiment pas qu'on aille directement du Pakistan dans leur pays. Et là, évidemment, les largesses étaient moindres. Néanmoins, on voit à quel point M. Modi, le Premier ministre sortant, a besoin de s'assurer à la fois des soutiens économiques, mais aussi des soutiens diplomatiques.
Je pense qu'après les attentats de Pulwama, Narendra Modi a une obligation de résultat avant les élections. C'est-à-dire que s'il ne réussit pas à rassembler notamment à l'ONU. Une première étape a été franchie, mais il y en a une seconde à venir avec la désignation claire du nom du terroriste qui dirige le groupe responsable de l'attentat. Soit il réussit à l'ONU et probablement à quelques sanctions, soit il est contraint de passer aux actes s'il veut garder la face de façon électorale. Je ne pense pas qu'en soi les attentats jouent contre lui. Au contraire, sa rhétorique nationaliste et communautaire ne peut qu'être confortée par des choses pareilles.
Traditionnellement, et on comprend quand on regarde une carte, à condition de ne plus voir une carte où l'Europe est au milieu du monde, l'obsession, la hantise ou l'angoisse indienne, c'est évidemment la Chine.
C'est devenu la Chine, ça n'était pas la Chine. Il faut quand même se souvenir que dans le temps long, pendant 25 ans, les relations économiques commerciales, par exemple, étaient absolument négligeables. L'Himalaya a une barrière extraordinairement importante et le Tibet absorbait suffisamment les énergies chinoises, si vous voulez. Les deux mondes ne se touchaient pas. L'Inde, à ce jour, d'ailleurs, a des entrées en Asie du Sud-Est, mais pas si fortes que ça. Tout ça est venu de la poussée économique chinoise vers l'extérieur, un premier temps. La Chine inonde l'Inde de marchandises, peut-être bas de gamme, mais aussi de téléphonie mobile, est devenue un prestataire éventuel de contrats d'infrastructure pour lequel les Indiens sont assez réticents, mais de temps en temps, ils cèdent, est devenue un modèle pendant quelques temps, pour le patronat indien, paradoxalement, et d'ailleurs pour Narendra Modi lui-même, quand il dirigeait le Gujarat, parce qu'au fond, la bureaucratie indienne est pire au quotidien qu'une bureaucratie chinoise, certes corrompue, mais pragmatique, si vous voulez, avec laquelle on fait. Donc il y a eu à la fois une fascination chinoise qui s'est développée, et puis les intentions de la Chine, sa stratégie ultime, est devenue plus claire, c'est-à-dire que l'océan Indien deviendra l'océan chinois, c'est-à-dire que les questions frontalières sont irrésolubles et probablement largement du fait de la Chine, même s'il y a parfois aussi une obstination indienne, parce qu'il y a eu des affronts qui ont eu lieu sur un État revendiqué par la Chine aux frontières de la Birmanie et pour lequel les Chinois, par exemple, se sont mis à refuser les passeports indiens pour des fonctionnaires natifs de cet État. C'était un exploit d'il y a quelques années. Pour les incursions dans le Doklam, mêlées confuses certes, mais que les incidents ont eu lieu au moment même où Xi Jinping était en visite amicale chez Narendra Modi dans le Gujarat. En plus, c'était quand même beaucoup. Pendant longtemps, on a entretenu la fable que le roi ne savait pas ce que faisaient ses conseillers. C'est-à-dire que tout ça témoignait que l'APL, l'armée chinoise, n'obéissait pas entièrement à son chef.
Oui,
aujourd'hui, on n'a plus aucun doute, absolument plus aucun doute, partout, c'est un comportement général. Donc c'est devenu, petit à petit, l'obsession numéro un, à laquelle on peut effectivement rajouter le Pakistan, qui avait toujours été là, le dossier pakistanais, Cachemire, l'attitude des Chinois sur le Cachemire. Mais aujourd'hui, ils investissent la route de la soie au Pakistan. L'armée pakistanaise se mobilise pour protéger les travailleurs chinois. L'armée chinoise entre en Afghanistan dans le couloir de Wakhan pour protéger les intérêts chinois au-delà de la frontière. On n'est plus du tout dans la situation de séparation qui prévalait.
Et l'Inde est devenue le plus grand acheteur d'armement au monde.
Oui, et elle le sera de plus en plus compte tenu de son industrie déficiente. Mais surtout, je crois qu'il faut souligner que Narendra Modi est le premier à adopter une diplomatie extérieure active, dynamique, positive, avec des buts de guerre très très clairs. Il sait ce qu'il veut des uns et des autres. Des États-Unis, un soutien stratégique, le pardon complet sur le nucléaire qu'il a à peu près obtenu,
Le pardon sur le nucléaire, pourquoi? Parce que Washington.
Le nucléaire militaire, ouais. Et le feu vert pour le nucléaire civil, du coup, que les Américains ont été réticents à lui donner. Déjà du Japon, des investissements. De la France, je me permets de le dire en passant, des armes que nous vendons assez libéralement.
Alors, justement, les armes. Donc, il y a cette affaire de la vente des Rafales, Tara Varma, qui a entraîné à New Delhi, non pas une enquête pour corruption, mais enfin plus que des rumeurs, sur la manière dont Modi a renégocié, en fait, avec Dassault, et de façon, semble-t-il, moins favorable, paradoxalement, à l'Inde que le contrat antérieur. Enfin, tout cela dans un fumet de corruption vis-à-vis de la famille Ambani, qui est la famille la plus riche de l'Inde. Jusqu'à quel point est-ce que cette affaire de Rafale fermente côté indien ?
Alors, c'est un sujet de préoccupation dans les médias au quotidien. C'est le sujet sur lequel, d'ailleurs, Rahul Gandhi est le plus offensif à l'égard de Narendra Modi. Donc, ce contrat... On ne sait pas si c'est encore une affaire de corruption ou pas, mais c'est encore cette manière de présenter Narendra Modi comme un ami des riches. Le contrat initial est pour 126 rafales, et l'entreprise indienne qui est censée en construire une partie, c'est HAL, Hindustan Aeronautics Limited, donc une entreprise d'État spécialiste de défense et d'aéronautique, comme son nom l'indique. Des négociations ont lieu, le contrat est modifié à 36 rafales finalement, et on en attribue, la partie indienne est attribuée à Anil Ambani, qui est un des deux frères Ambani, qui sont effectivement deux frères ennemis indiens, les deux frères les plus riches. Son frère Mukesh a un immeuble assez emblématique à Bombay de 27 étages. Anil Ambani n'a aucune expérience dans les questions de défense, il n'a pas d'entreprise de
défense.
Donc
c'était manifestement du copinage largement arrosé, ce qui nous ramène aux enjeux et aux coûts de cette campagne électorale interminable qui dure donc pendant 3-4 mois. Comment est-ce que c'est financé ?
Justement, ce sont les campagnes électorales les plus chères du monde après celles des États-Unis. C'est important, je pense, de le rappeler. Le gouvernement de Modi a mis en place très récemment ce qu'ils appellent des electoral bonds, donc des obligations électorales que l'on peut acheter de manière anonyme pour financer le parti de son choix. Là aussi, sur le financement des partis, il y a une opacité totale. Financement des campagnes électorales, c'est la même opacité. C'est un peu inquiétant. On voit que le BJP est capable de mobiliser un argent fou, non seulement dans les meetings, mais encore une fois, dans cette utilisation des réseaux sociaux qui permettent de toucher des gens partout en Inde.
François Godemont, cette affaire des Rafales, c'est quand même une illustre la manière dont la France, et la France d'Emmanuel Macron, s'intéresse à l'Inde et à ses marchés beaucoup plus qu'auparavant.
C'est traditionnel. Alors, les scandales d'achat d'armes en Inde, c'est immémorial. Il faut se souvenir les canons Beaufort et la Suède, pas totalement étrangers à l'assassinat d'Olaf Palme et à des affaires de ce genre. Pour la France, je crois qu'il y a une continuité. La continuité s'appelle du nom du ministre de la Défense du gouvernement précédent, du ministre des Affaires étrangères, de celui-ci, bien sûr, un effort très grand. La France s'est tournée vers l'Inde en partie comme alternative et complément à la Chine. Et là où les Allemands sont les plus forts sur le plan économique, la France est la plus forte sur le plan des armements. Je n'ai pas tout à fait la même vision de l'affaire des Rafales telle qu'on voit le débat se dérouler en Inde. Tout le monde est d'accord que, quelque part, il y a eu une mauvaise affaire. Mais il faut se souvenir de ce que les Français et le fabricant du Rafale lui-même disaient d'Hindustani. Une compagnie
donc la compagnie indienne.
La compagnie qui fabriquait les voitures absolument hors d'âge et qui n'a que des coucous, enfin, qui, pour lesquels ils n'envisageaient pas de travailler. À l'époque, c'était 126 avions. Modi revoit ça par le haut et signe rapidement un accord où on recommence les choses à zéro avec un nouveau fabricant, effectivement. En effet, c'est un copain, Ambani, et il a beaucoup de moyens. Mais ça permet aussi à Dassault d'avoir une main plus importante à l'intérieur, si vous voulez, d'avoir plus de contrôle. Il est complètement hors de question qu'on laisse les choses se faire du côté indien. Et Modi, qui croit sans doute de cette manière-là, qui met pas tous ses œufs dans le même panier, n'achète que 36 avions au lieu de 126, mais il les paye beaucoup plus cher. Il peut ensuite penser, on a longtemps spéculé qu'il pourrait y avoir un contrat avec les Russes, par exemple, pour d'autres avions, où les Américains pouvaient revenir en jeu.
Alors, précisément, un contrat avec les Russes, dites-vous, quel est le rôle de Moscou et où en sont les relations entre Moscou et New Delhi au moment, encore une fois, où la Chine avance ses pions dans cette partie de l'Asie?
Pour moi, ce sont des relations dont l'importance stratégique décroît très régulièrement, parce que la Russie, j'allais dire l'URSS, mais c'est la Russie, est ligotée. Elle est ligotée par ses liens avec la Chine, par sa dépendance à l'égard de la Chine. Elle est certes encore un fournisseur de recours voir les missiles SA-400, les missiles solaires d'une portée remarquable qui font une défense aérienne et dont l'Inde est le deuxième acheteur maintenant étranger. Mais en quantité, en qualité, ça ne marche pas. En termes commerciaux, ça ne marche pas non plus. Il reste à l'ONU une tendance au neutralisme, ça permet à l'Inde de temps en temps de joindre sa voix, mais là aussi l'axe Pékin-Moscou est beaucoup plus fort.
Et comment l'Inde se positionne-t-elle par rapport aux partenaires régionaux et à ces tensions multiples dans l'océan Indien ?
Ben, je crois que pour la première fois, elle est passée à une diplomatie positive. Elle a toujours régné dans sa région. Mais derrière les discours sur le voisinage, il y avait quand même la manière forte. Et un certain mépris pour les participations aux instances régionales. L'Inde a eu son système régional, le SARC, comme on l'appelle. Elle était plus souvent absente que présente aux réunions. Modi, c'est autre chose. Il y va, il visite et il paye. Il y a des milliards de dollars aujourd'hui donnés par l'Inde en matière d'aide au développement, et c'est de la vraie aide au développement, à la différence de l'aide commerciale. Bah, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des crédits commerciaux à la chinoise, si vous voulez, tels que la Chine en déverse en Afrique. Donc elle est passée à cette contre-offensive, elle prend au sérieux les choses. Mais elle a besoin des uns et des autres. Elle a un besoin immense du Japon, par exemple, sur le plan économique, et pour faire pièce à la Chine sur le plan technologique. Elle a probablement besoin d'autres, je ne dirais pas pour assurer la sécurité dans l'océan Indien, mais pour assurer la légitimité de sa sécurité. Je pense que nous, les Français, par exemple, qui avons signé un accord très audacieux avec l'Inde, où on partage les bases qu'on possède, donc ça veut dire pour nous Djibouti et La Réunion, par exemple, c'est surtout quelque chose qui légitime la présence indienne.
Par rapport à Washington, qui négocie en ce moment pour essayer de mettre fin à cette guerre de 18 ans en Afghanistan, il semble que du côté indien, il y a une vraie crainte que du coup, les combattants qui étaient armés et financés par le Pakistan et qui se battaient en Afghanistan contre les troupes américano-afghanes, bref, que ces combattants-là pourraient aller au Cachemire renforcer
C'est la peur de tout le monde par rapport à la volatilité et à l'isolationnisme potentiel de Donald Trump. Au départ, les Indiens ont infiniment préféré l'administration Trump à celle qui s'en allait, à Barack Obama.
Pourquoi ?
Donc, parce qu'ils regrettaient le non-engagement décisif d'Obama vis-à-vis de la Chine, si vous voulez. Ils le pensaient comme assez hypocrite sur son soutien. Il partageait les inquiétudes des conservateurs japonais, par exemple. C'est sur cette base qu'Abe et Modi se sont d'abord rapprochés.
Et maintenant ?
Maintenant, ils découvrent que même s'il y a des transferts d'armement considérables maintenant, s'il y a une offre américaine, il n'y a pas vraiment de garantie de sécurité dans de nombreux cas. Et qu'en effet, l'attitude, la situation potentielle de l'Afghanistan risque d'être un problème. Ils ont à peu près sur l'Afghanistan l'inquiétude qu'on peut avoir nous sur la Syrie. C'est pas complètement différent.
Christophe Jaffrelot, on arrive pratiquement à la conclusion de cette émission. Vous nous avez aidé à comprendre d'entrée l'échelle des enjeux et des problématiques de l'Inde d'aujourd'hui, mais au-delà des explications de François Godemont, pourtant lumineuses, on a toujours l'impression qu'il s'agit d'une très grande puissance qui reste très introvertie, tant ses propres problèmes internes sont considérables.
Oui, mais c'est peut-être parce que l'Inde boxe au-dessus de sa catégorie. Une très grande puissance, quand le rapport en termes de PNB par tête est quasiment de 1 à 4 entre l'Inde et la Chine, ça relativise la puissance en question. On a affaire à un pays qui a des élites remarquables, qui a une technologie qu'elle s'est donnée toute seule, militaire mais pas seulement, et en même temps, un pays où il y a encore 250 à 300 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec évidemment un énorme problème d'éducation qui explique en partie le grand problème du chômage, des institutions financières qui sont effectivement très fragiles. il y a effectivement une espèce de d'effet d'optique, hein, d'illusion d'optique. Et c'est d'ailleurs l'un des ressorts du nationalisme, le ressentiment. Hein. Il faut relire Nietzsche et voir comment le nationalisme naît dans l'Allemagne du XIXe siècle. C'est quelque chose qui nourrit le nationalisme. On croit qu'on est arrivé et on est très loin du compte. Et aujourd'hui, l'un des grands ressorts de ce nationalisme, c'est le sentiment d'être encerclé par la Chine, car la Chine est présente à Sri Lanka comme elle ne l'a jamais été auparavant. Elle est présente au Bangladesh, elle est présente au Népal comme elle ne l'a jamais été auparavant.
Au Pakistan.
Au Pakistan, elle l'a toujours été, ça c'est une autre affaire. Mm. Mais ça explique aussi cet hyper-nationalisme, le fait qu'on surréagit aujourd'hui, on fait la chasse aux Cachemiris à travers toute l'Inde, parce que soi-disant les Cachemiris sont responsables de ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan. Il y a une volatilité du coup qui, je pense, s'explique par cette espèce de tension entre le désir d'être très présent, très reconnu sur la scène internationale, et puis en même temps le déficit d'infrastructures et de ressources, tout simplement.
Et cette conscience-là, ce ressenti-là, est partagé dans tout l'échiquier politique. Ce n'est pas simplement le fait... Alors, des nationalistes hindous façon maudit, c'est
oui,
aussi...
Effectivement, mais il est instrumentalisé par ce côté-là de l'échiquier politique, comme elle l'est dans l'Europe de Orban et de Kaczynski, où on a toujours les mêmes logiques derrière le national-populisme. Le Congrès, lui... Et c'est très intéressant parce que la donne est différente.
Donc quand on dit le Congrès, c'est le parti du Congrès.
Le parti du Congrès, de Rahul Gandhi. Aura une vision, certes, nationaliste, mais tout de même beaucoup plus irénique, cherchant à refaire l'unité nationale. Et ce qui est fort intéressant aujourd'hui, c'est de voir que d'anciens militaires, hein, il y a 5 ans, les anciens militaires rejoignaient Narendra Modi. Hein, V.K. Singh, chef d'état-major à la retraite, passé au BJP. Aujourd'hui, l'homme qui a été responsable de la frappe chirurgicale de 2016 rejoint le Congrès en disant « S'il faut trouver une solution politique et militaire à nos affaires, c'est de ce côté-là qu'elle se trouve. » Et d'ailleurs, il a une note de bas de page absolument stupéfiante. Il dit « Il n'est pas possible que les 350 kilos d'explosifs qui ont tué 40 soldats indiens soient venus du Pakistan. » Ce qui veut dire qu'ils sont venus de l'Inde. Ce qui veut dire que c'est l'Inde qui est responsable du problème qu'elle s'est donné toute seule en s'aliénant la jeunesse cachemiri et le terroriste, enfin celui qui est à l'origine de l'attentat suicide, est effectivement un jeune cachemiri. Et donc vous avez deux façons de régler les problèmes d'un point de vue nationaliste, l'un qui est quand même plus constructif que l'autre.
Et donc, on va voir encore une fois quelle peut être, quelle sera la réponse de New Delhi après cet attentat suicide d'il y a une dizaine de jours. Merci à vous tous de nous avoir éclairés sur les mystères de l'Inde. Merci à vous, Christophe Jaffrelot. Vous allez publier dans quelques jours, dans 15 jours exactement, Inde, nationalisme hindou, populisme et démocratie ethnique chez Fayard. Merci à vous François Godemont. Vous venez de publier chez Odile Jacob l'hiver dernier avec Abigail Vasselier, La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe. Merci à Tara Varma. Je rappelle que les rapports du Conseil européen des relations internationales sont nombreux et toujours intéressants sur votre site. Merci aussi à Jean-Joseph Boileau qui a publié L'Inde ancienne au chevet de nos politiques dans la collection Questions d'époque chez les éditions Le Félin. C'était en 2017. Merci à Éric Scholl, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation ce matin, Jacques Hubert à la technique. Meryl Moneghetti et Marion Barsac ont préparé cette émission. Et dans quelques instants, comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end.